en compagnie de Mathieu Place, qu'on accueille d'ailleurs bien bassement. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, je vous donne l'adresse du blog d'abord, avant9h.wordpress.com, si vous l'avez oublié. Et Mathieu, ben en fait, je le disais avant la pause, c'est tellement vrai, on passe vraiment de l'antiquité, là, de l'an zéro, et on s'en va vers 2012-2013 pratiquement, parce que connaissant James Cameron, il y aura retard dans la sortie de son film.
Oui, il y a déjà retard.
Alors, tu nous amènes sur le terrain du film donc de Monsieur Cameron, ça s'appelle Avatar, son prochain film qui utilise des technologies assez particulières. Oui. Mais peut-être pour commencer, remettons-nous en contexte, James Cameron, peut-être que le nom n'allume pas l'imaginaire de certaines personnes, mais par contre, son curriculum vitae, lui, va nous allumer indéniablement.
C'est que James Cameron, ça fait 12 ans qu'il n'a pas sorti un film en bonne et due forme. Il a fait quelques documentaires, mais son dernier film, ceux qui étaient là à l'époque s'en souviennent, en 1997, Titanic. Alors, on se souvient que c'était tout un film, ça a vraiment déplacé les foules, c'est le moins qu'on peut se dire. Tout le monde connaît une fille quelque part qui a vu le film à peu près 12 fois.
Et qui a pleuré,
le pauvre Léo et tout le Bataclan. C'était un excellent film. Et James Cameron, il s'est fait connaître pour deux choses. C'est qu'il fait des films qui sont toujours à très grand déploiement, avec de la technologie, des innovations incroyables dans le domaine cinématographique. Mais en même temps, bizarrement, il arrive à s'épargner les critiques. Là. C'est-à-dire que ses films sont pas si mal que ça. T'sais. Habituellement, les films à grand déploiement avec beaucoup d'effets spéciaux, ben c'est souvent des coquilles vides. Hein. Ils ont seulement ça. Mais James Cameron s'attarde quand même à faire une bonne histoire, un bon film et avoir des performances d'acteurs qui valent la peine d'être vues aussi.
Oui, parce que même si on a beaucoup dit que Titanic, bon, l'histoire était cliché et le reste, le film s'est rendu aux Oscars, ça a été un gros succès et malgré tout, on embarque dans cette histoire-là, un peu comme on a embarqué dans Terminator 1-2, un peu comme il a réussi aussi à faire complètement autre chose avec Aliens, avec Alien 2 après le chef-d'œuvre de Ridley Scott.
Ben exactement, c'est pour faire une petite histoire, James Cameron a commencé sa carrière, en fait, au cinéma. Il a commencé sa carrière de camionneur avant de commencer sa carrière de cinéaste. C'était un camionneur. Il faisait sa vie sur les routes des États-Unis. Et un jour, en 1977, il avait 22 ans, il a décidé d'aller voir Star Wars avec un de ses amis. Et il est sorti du film. Son ami était réjoui. Il avait passé une très belle heure et demie à voir ce film-là. Et James Cameron, lui, était très fâché parce qu'il se disait, ce film là, Star Wars, c'est pas George Lucas qui aurait dû le faire, c'est James Cameron, c'est moi, c'était le film que je devais faire. Alors James Cameron, à ce moment-là, il y a eu un changement de carrière complet, il a décidé d'acheter du matériel de cinéma cheap au magasin et de faire ses propres films dans son salon au grand désespoir de sa blonde de l'époque. Et peu à peu, il a réussi à se faire connaître dans l'industrie du cinéma à Los Angeles et il est entré par en fait la porte de derrière. Il a décidé de devenir chef des effets spéciaux dans les séries B, dans les films à petit budget de Hollywood. Et peu à peu, un jour, il a développé quelques histoires et il a développé l'histoire de Terminator, qui est un film qui a eu un très grand succès. Bon, évidemment, Terminator, c'était un film à effets spéciaux encore. Alors, vous aviez beaucoup d'effets de maquillage. C'était évidemment Arnold Schwarzenegger qui était un robot. Alors, on pouvait avoir des effets où on voyait la partie robot d'Arnold Schwarzenegger. Alors, il y avait des effets spéciaux déjà dans celui-là, même si c'était à la base un film d'action avec des fusils, etc. Ça se passait dans le présent.
Et vraiment, d'un film à l'autre, c'est toujours la constante de Abyss à Titanic en passant par ses premiers. Il y a toujours une belle place aux effets visuels. Et ces films font avancer peut-être un peu aussi ce qu'on peut faire avec les effets visuels.
Exactement. Ben dans Alien, justement, vous aviez quelque chose de plus stylisé qui avait été inspiré des dessins de Giger. Ensuite de ça, Terminator 2. On se souvient, Terminator 2, c'est début des années 90. C'est les premiers balbutiements de l'ordinateur à l'écran. Alors, l'ennemi des héros de Terminator 2, c'était un personnage qui pouvait se transformer de forme, il devenait liquide.
Et c'était du jamais vu à l'époque.
Et c'était du jamais vu. Et encore une fois, on s'en souvient, là, c'est ça qui est de particulier avec les films au cinéma qui ont des grandes avancées technologiques, c'est que ça marque un avant et un après. Mm. Alors, on a d'autres exemples. Star Wars, bon, c'est pas James Cameron qui les a fait, là, mais il y a un avant et après Star Wars. Jurassic Park, Seigneur des Anneaux, etc. Et là, justement, on a le nouveau film qui s'en vient et on s'attend à ce que ce soit encore une révolution. révolution. Et c'est Avatar qui va sortir en début décembre. Si tout va bien, là, évidemment, on sait que James Cameron, des fois, reporte ses films parce que c'est un perfectionniste. Et c'est un personnage très ambitieux. Alors, c'est sûr que on l'attend, mais on va y croire quand on va le voir. Là.
Et Mathieu Place, dans le cas d'Avatar, on parle d'une nouvelle révolution en trois dimensions.
Oui, il y a trois nouveaux joujoux qui ont été utilisés par Monsieur James Cameron pour révolutionner le cinéma et faire son film. Alors, le premier joujou, c'est une nouvelle caméra 3D. Alors, les films 3D, on en a déjà vu au cinéma. Souvent, c'est une espèce de curiosité. Hein? On va voir ce film-là, puis l'histoire est pas nécessairement si extraordinaire que ça. C'est beaucoup des curiosités. Alors, moi, je me souviens que j'allais à Disneyland et il y avait un film avec Michael Jackson en 3D. Et, bon, c'était les fameuses lunettes qu'on utilisait là, avec un côté bleu, un côté rouge, et c'était plus ou moins réussi. D'une certaine manière, les films duraient pas très longtemps parce que ça causait des maux de tête. Mmh. C'est clairement ça, ça causait des maux de tête. Et aussi, c'était pas du 3D complet, c'était des plans qui étaient, c'était comme des feuilles de papier qui étaient superposées les unes aux autres, et souvent pendant le film, ça se trouvait être un film normal, et une fois de temps en temps...
Avec des petits clins d'œil 3D.
C'est ça, vous aviez des petits clins d'œil, une petite bébite qui venait vous voir, un coup de fusil qui s'en allait vers vous, etc.
Ou dans le cas de Jason 3D, c'était un œil.
Un œil, pour vrai. Alors, je me souviens pas de celle-là, mais c'est ça. Alors, c'était des petits clins d'œil une fois de temps en temps. Alors, dans le cas de James Cameron, il a développé une caméra 3D qui permet à ce que tous les plans soient en 3D complet. Alors, encore une fois, il va falloir utiliser des lunettes spéciales, mais ça va être une autre sorte de lunette qui est pas avec les fameuses couleurs rouge et bleu, mais qui va nous permettre d'avoir un effet 3D en tout temps. Alors, la caméra en question que James Cameron a utilisée, c'est une espèce de caméra double qui fait figure de... qui utilise la vue des deux yeux, là, si vous voulez. Alors, chacune des caméras filme ce que un des deux yeux du spectateur va voir, et ensuite de ça, les lunettes qui sont utilisées par le spectateur lui permettent de bloquer certaines informations qui sont à l'écran, et ça permet d'avoir deux vues qui se complètent et qui font un effet 3D à l'écran. Alors c'est ça, un effet 3D complet. Alors c'est vraiment hallucinant. Ensuite de ça, un deuxième joujou qui a été utilisé, mais ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu si vous êtes intéressé à la technologie qui a été utilisée pour Le Seigneur des Anneaux. C'est une caméra qui permet de filmer l'expression des acteurs. Alors justement dans Avatar, c'est que c'est un mélange, le film en tant que tel est un mélange d'acteurs et d'images qui sont faites par ordinateur.
Donc, un peu comme des Gollum, dans le fond?
Oui, c'est ça, exactement. Alors, vous avez peut-être quelques personnages qui sont faits à l'ordinateur, et pour pouvoir avoir leur expression dans le film, vous avez des caméras qui sont placées devant les acteurs sur une espèce de casque, et pendant qu'ils jouent, on est capable de recréer l'expression des acteurs, mais en tant que personnage informatisé sur l'écran. Mais le grand joujou, la grande innovation qui a permis de créer ce film-là, Avatar, par James Cameron, c'est l'invention d'un monde virtuel filmable, si vous voulez. Alors, je m'explique comment il va procéder pour faire son film, comment il a procédé pour faire son film. Le plateau de tournage, ça se trouve à être un grand hangar à Los Angeles, et ce que il va faire, c'est que pour pouvoir filmer son film, c'est que il va placer les acteurs dans des situations dans le hangar, et il va pouvoir les filmer pendant qu'ils vont jouer le film. Mais ce qu'il y a de spécial, l'innovation, c'est qu'il est capable de voir en temps réel sur des écrans dans l'univers qui est créé par ordinateur le jeu des acteurs. Alors ça lui permet de filmer les acteurs et de voir exactement rapidement à quoi ça va ressembler dans le monde en tant que tel. Alors, par exemple, avec les Star Wars qui ont été faits par George Lucas, là, la nouvelle série, c'était à peu près le même procédé, mais pour pouvoir voir le résultat dans le monde de Star Wars, bon, ben ça prenait beaucoup d'étapes par la suite en post-production pour pouvoir voir à quoi ça allait ressembler au final. Mais là, James Cameron est capable de le voir directement dans ses moniteurs pendant qu'il est en train de le filmer. Alors, c'est comme s'il filmait directement dans le monde de Avatar. Et ce qu'il y a de spécial encore, c'est qu'une fois qu'il a filmé les acteurs pendant qu'ils jouaient dans ce monde-là, ensuite de ça, bon, les acteurs s'en vont manger un lunch, ils s'en vont chez eux, James Cameron revient dans le hangar, et le jeu des acteurs, leur déplacement dans les scènes de Avatar est tout ça est enregistré sur ordinateur. Et James Cameron, ensuite, est capable de prendre des prises de vue de cet univers-là. Alors, c'est comme si la scène était enregistrée.
Et là, il peut déplacer une caméra virtuelle et faire comme si, dans le fond, on avait fait la scène plusieurs fois avec des angles différents.
C'est ça, exactement. C'est comme si la scène était enregistrée et ensuite, tu sais, il est capable de placer sa caméra de n'importe quelle façon, tester tous les angles de vue qu'il veut bien tester et pouvoir filmer la scène exactement comme il le veut. Alors, évidemment, là, ça donne beaucoup de possibilités pour un directeur, c'est-à-dire qu'il peut d'abord se concentrer sur le jeu des acteurs, comment ils jouent, etc., sans se soucier de la lumière, des caméras, etc. Et ensuite de ça, une fois que les acteurs ont bien joué leur scène, bien, il peut replacer ses caméras exactement où il veut. Après ça, il peut faire des changements fous. Il peut décider que, ah non, cette scène-là, ça va être pendant le jour, ah non, ça va être pendant la nuit, on va décider que tel personnage, finalement, il porte tel vêtement au lieu de tel vêtement. Alors, les possibilités sont infinies et ça donne beaucoup de liberté au directeur. Et en plus de ça, ça lui donne la possibilité de faire des films de manière instinctive. Parce que quand vous faites un film à la manière Star Wars, c'est qu'il y a tellement d'étapes, il y a tellement d'intervenants dans le film, c'est que ça alourdit la machine et ça fait en sorte que les films ont l'air un peu congestionnés là, au final. Tandis que là, on peut espérer que ça va avoir l'air un peu plus fluide, un peu plus instinctif.
Et la grande question dans tout ça, Mathieu, indéniablement, c'est de voir, bon là, ce que tu nous dis, c'est que dans la manière de tourner, ça change radicalement, ça permet au réalisateur d'agir comme si on tournait un film normal, entre guillemets, avec des acteurs, des décors, etc. Mais en parallèle, pour le spectateur à l'écran, c'est à savoir, est-ce qu'on va réussir à avoir créé l'illusion totale, avoir réussi à rendre humains des personnes qui sont non humaines, des personnes qui sont animées par ordinateur, ce qui avait été un peu amené par le film Final Fantasy il y a de ça quelques années, qui avait radicalement échoué dans l'expressivité. Et tranquillement, depuis ce temps-là, on essaie de parfaire cette méthode-là.
Ben, c'est ça, on dirait que il y a une frontière, il y a une bulle qui n'a pas encore été pétée, là, si vous voulez, il y a une frontière qui n'a pas été encore dépassée, c'est que les personnages faits à l'ordinateur, on dirait qu'il y a quelque chose de mort, là, si vous voulez, dans leur regard, c'est surtout dans leur regard.
Il n'y a pas d'étincelle.
C'est ça, il n'y a pas d'étincelle, il manque quelque chose, et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'équipes de technovores là, qui ont vraiment essayé de faire en sorte que ça soit possible d'avoir l'étincelle en question, mais c'est très difficile. Alors, vous avez, quelques essais qui ont été presque réussi. Alors, par exemple, dans Seigneur des Anneaux, vous avez Gollum, qui est quand même pas si mal, qui a quand même des expressions
intéressantes. Mais qui n'est pas une créature humaine.
Mais qui n'est pas une créature humaine. Oui, bonne intervention. C'est pas une créature humaine. Alors, c'est sûr que là, il y a une espèce de zone grise, une marge de manœuvre qui permet de faire en sorte que on n'est plus indulgent par rapport à certains tics qui sont pas humains. Mais une fois qu'on fait des personnages humains, ben là,
Faut que Mathieu Place vrai et Mathieu Place virtuel, il y a quelque chose de similaire entre les deux, qu'on puisse avoir, qu'il y a une certaine illusion. Là.
C'est ça, on est habitué de voir des humains, on sait à quoi ça ressemble. Alors, c'est sûr que là, de comparer ça à des images créées par ordinateur, on est assez difficile. Alors, c'est sûr que cette frontière-là n'a pas encore été atteinte, mais peut-être qu'avec Avatar ou d'autres créations de James Cameron, ça va être possible.
Et Avatar, ça s'en vient techniquement d'ici la fin de l'année?
Oui, c'est début décembre, là, 15 décembre, on va voir.
C'est ça. Mathieu Place, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Et on se dit à la semaine prochaine.
À bientôt.